France Musique.
Étonnez-moi, Benoît.
Aujourd'hui, j'accueille Hubert de Gex, pianiste, compositeur, arrangeur, qui fut notamment l'accompagnateur d'Agnès Capri et d'Odette Laure, puis le chef d'orchestre de Petula Clark, avant de devenir le cinquième frère Jacques. Ce très long et riche parcours, Hubert de Gex nous le racontera dans quelques minutes. En fin d'émission, les actualités de l'opérette avec Jacques Offenbach et Gaston Serpette. Mais d'abord, puisqu'on parle beaucoup ce week-end de la chute du mur, allons respirer l'air de Berlin sur un rythme d'opérette.
Berlin, hör ich den Namen bloß, da muss vergnügt dich lachen. Wie kann man da für wenig Moos den dicken Wille machen? Warum lässt man auf Märkischem Sand gern alle Puppen tanzen? Warum ist dort das Heimatland der echt Berliner Pflanzen? Ja, 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 ja. Das macht die Berliner Luft, 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 so mit ihrem holden Duft. Gibt sich gastfrei und bescheiden, drum ist er überall beliebt und jeder kann ihn leiden. Wenn sonst man mir Kakela sagt, so sagt in jedem Falle, wenn's dem Berliner nicht behagt, er sanft mir können sie alle. Ja, 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 das macht die Berliner Luft, 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 so mit ihrem holden Duft.
Ah, la bonne humeur prussienne de ce Berliner Luft, célèbre finale de l'opérette Frau Luna, célèbre en tout cas pour les Berlinois parce qu'elle fut créée en 1899 et qu'elle a été composée par le Berlinois Paul Linke. Paul Linke, c'est l'un des plus grands musiciens d'opérette donc de la capitale allemande. Tout cela pour vous dire, vous l'avez compris, que France Musique est à Berlin et vous pouvez retrouver effectivement Génération France Musique cet après-midi avec beaucoup de musiciens extraordinaires. Le programme complet, il est sur francemusique.fr. Quant à moi, bien évidemment, j'ai privilégié un petit chef-d'œuvre de ce merveilleux cabaret berlinois d'avant-guerre. C'est une chanson interprétée par Claire Waldoff, une des plus grandes artistes du genre. Ça s'intitule « Es gibt nur ein Berlin » en 1932.
Das
ist nur ein Berlin. Und das ist mein Berlin. Er liegt uns auf keiner für Normen. Das ist uns alles ganz egal. Solange die Welt sich dreht, solange die Zeit vergeht, solange die Bäume im Frühling erblühen, gibt es nur ein Berlin. Solange die Welt sich dreht, solange die Zeit vergeht, solange die Bäume
Es gibt nur ein Berlin, il n'y a qu'un seul Berlin, par Claire Waldoff, une des plus grandes artistes, je vous le disais, du cabaret berlinois d'avant-guerre. Et je vous signale encore à ce propos que demain à 12h30, notre ami Martin Penet vous proposera son tour de chant sur le renouveau du cabaret berlinois à l'est et à l'ouest. Mais pour l'heure, eh bien, avant de retrouver mon invité, je voudrais encore remercier nos amis de la discothèque centrale qui ont réussi à remettre la main sur un disque introuvable. Je n'en avais qu'une mauvaise copie. Je vous l'avais déjà fait écouter et pourtant ça vous avait beaucoup intéressé malgré le son un petit peu douteux. C'est Isaac Strauss, grande figure. Alors là, c'est pas la bonne humeur berlinoise, c'est la bonne humeur parisienne du Second Empire. Il était chef des bals de la cour. C'était par ailleurs le grand-père, l'arrière-grand-père de Claude Lévi-Strauss. Et j'ai retrouvé donc avec nos amis ce disque dirigé par les Concert l'amoureux et Marcel Cariven. Il s'agit du grand galop de l'opéra de Monsieur Isaac Strauss. Thank you. Ah, on les imagine bien, ces Parisiens du Second Empire, dansant frénétiquement sur ce grand galop de l'opéra de Monsieur Isaac Strauss, un disque qu'on a fini par retrouver après une longue recherche dans une édition espagnole. Mais c'était bien donc l'Orchestre des Concerts Lamoureux sous la direction de Marcel Cariven.
Étonnez-moi Benoît, Benoît Dutertre, France Musique.
Et sans plus attendre, nous allons retrouver mon invité qui vient d'avoir 90 ans et qui a commencé il y a très longtemps avec Agnès Capri, Odette Laure, des grandes figures de la chanson française. Et puis il a été chef d'orchestre de Pétula Clark et surtout des Frères Jacques. J'ai le grand plaisir ce matin d'accueillir Hubert De Gex.
Ce que c'est beau, la photographie, les souvenirs sur papier glacé. Pas de raison pour qu'on les oublie, les beaux yeux, les beaux jours passés. Ce que c'est beau, la photographie, le soleil qu'on fait prisonnier. Pas de raison pour qu'on les oublie, les petites femmes en petit d'été. En noir et blanc, au 50e, ça fait l'effet sur l'amateur. Et c'est pas rare qu'on s'en souvienne, comme si elles étaient en couleur. Ce que c'est beau, la photographie, bougeons plus, l'amour va passer. Y'a pas de raison pour qu'on oublie sa petite gueule sur l'instantané.
Ne bougeons plus.
Voilà une belle chanson, et on a reconnu les frères Jacques, dont vous êtes à la fois le compositeur, l'arrangeur et le chef d'orchestre, en somme.
Oui, comme de beaucoup de choses.
C'est vous qui êtes au piano aussi, dans les arrangements ?
Oui, oui.
Voilà. Une chanson de 1968 que vous aviez écrite avec Jean Cosmos, qui était un grand parolier. Hein.
Oui, très, très bien. Et c'était un auteur de pièces aussi.
De pièces de théâtre.
Il avait écrit une pièce pour les frères Jacques. Les frères Jacques devaient jouer quatre chiens. Et moi, le pianiste, je devais être un chat.
Ah bon ?
Et ça ne s'est jamais fait, malheureusement. Parce qu'il faut dire qu'on tournait trop, quoi. C'était...
Voilà, là, cette chanson, c'était en 1968, donc à l'époque où vous étiez vraiment tout le temps avec les frères Jacques. On disait même que vous étiez le cinquième frère Jacques, hein ?
Oui, c'est ce qu'on a dit, oui. C'est pas moi qui le disais, mais...
Et ce sont, j'imagine, des années heureuses, enfin, de tous ces moments passés en scène ensemble, en tournée ensemble à travers la France.
La France et le monde.
Et le monde.
L'Afrique, bien sûr, l'Amérique.
Vous aviez rencontré les frères Jacques, vous les connaissiez déjà, j'imagine, depuis longtemps.
Non, je les connaissais pas. Et je les ai découverts à Bangkok.
À Bangkok.
Je suis allé acheter des disques à Bangkok.
Où vous viviez pendant quelques années, on y
voilà,
reviendra.
Voilà, j'étais là. Et je vois les frères Jacques chantent Prévert.
Oh, ah oui.
J'ai acheté ça. Pour moi, c'était la France.
Oui.
Et je leur ai dit, d'ailleurs, quand Philips m'a téléphoné pour me dire, les disques Philips ont téléphoné.
Les frères Jacques ont besoin d'un pianiste, leur pianiste Pierre-Philippe arrête.
Pierre-Philippe avait dit au frère Jacques, si j'arrête, vous serez obligé d'arrêter parce que sans moi, vous ne pouvez plus rien faire. Alors, ils ont dit ça devant leur directeur artistique. Et le directeur artistique a fait le tour de Philips dans tous les studios où il y avait des musiciens. Il leur demandait s'il y en a un qui pourrait me donner un numéro de téléphone d'un pianiste qu'il connaîtrait et qui serait capable d'accompagner les frères Jacques et qui serait libre en ce moment. Et il y en a un, c'était Willy Lockwood.
Qui avait un rapport avec Didier Lockwood. Hein,
c'était son oncle.
Son oncle, voilà. C'est ça.
Mais Willy, c'était un de mes musiciens.
Un de vos collègues de
Et il a dit, demandez à Hubert de Gex, je pense qu'il est libre en ce moment. Et j'ai eu un coup de téléphone de Philips qui m'ont dit « Est-ce que vous pouvez accompagner les frères Jacques ?» Ah, j'ai fait « Oui, avec grand plaisir. » Parce que pour moi, c'était la France quand j'étais au Siam. Ils m'ont dit « On n'en a pas pour très longtemps. » Ils m'avaient dit « Combien de temps ?» En fait, je suis resté 17 ans avec.
Voilà, c'est ça. Parce que je dois dire, je me souviens même quand j'étais enfant, que c'était la tournée d'adieu des frères Jacques.
Oui.
Et puis 10 ans après, c'était encore la tournée d'adieu des frères Jacques.
Oui. Ben oui, mais parce que c'était vrai.
C'était une tournée d'adieu sans fin.
Mais c'était vrai parce qu'il fallait aller partout où nous avions été avant même que j'y sois avec eux, quoi.
Alors en tout cas, Hubert de Gex, on va revenir au frère Jacques. On est très heureux de vous recevoir ce matin, puisque vous êtes un personnage qui a fait mille choses, bien avant d'ailleurs de rejoindre les frères Jacques, dans ce métier de la chanson et au-delà, comme compositeur, comme chef d'orchestre, comme arrangeur. C'est quoi celui de ces métiers que vous revendiquez le plus alors ?
Je suis pianiste, mais c'est vrai que je suis aussi chef d'orchestre. Je l'ai été très longtemps parce que avant les frères Jacques, j'étais déjà chef d'orchestre. Quand on allait avec Jerry Mingo faire une émission de radio, ouais. Je me souviens qu'il me disait oh, « Tiens, il faudrait qu'on joue tel morceau, tu peux nous faire un petit arrangement là en vitesse ?» Et en vitesse, je fais un petit arrangement comme ça.
Ah voilà, un petit arrangement. Mais c'est pas si facile que ça, un petit arrangement. Voilà, Hubert de Gex, en tout cas, quelques aspects qu'on va évoquer ensemble ce matin, en commençant par remonter dans votre tendre enfance. Première des scènes d'enfants de Schumann jouée par Alfred Cortot, c'est important, Hubert de Gex.
C'est très important.
Parce que
très
non seulement
c'était le meilleur pianiste de l'époque.
Bien sûr, mais en plus il a failli avoir votre mère pour élève.
Ah, mais absolument, il la voulait parce qu'elle jouait merveilleusement bien, elle était mieux que moi.
Hein.
Ah oui. Elle aurait pu être l'élève de Cortot et elle serait devenue une grande pianiste, quoi.
Mais elle ne s'est pas tournée finalement vers la carrière musicale parce que ce n'était pas dans les habitudes. Pour...
C'est pas qu'elle ne s'est pas tournée, c'est qu'elle serait bien restée dans la carrière musicale. Son père n'a pas voulu.
Non, n'a pas voulu,
c'est ça. Parce que ça ne se faisait pas pour une demoiselle.
Voilà,
c'est elle ça. Avait le droit d'aller jouer du piano dans un salon, mais elle n'avait pas le droit d'y gagner de l'argent avec.
Voilà, mais elle continuait à jouer. Donc vous avez grandi avec quand même cette présence du piano dès votre plus tendre enfance.
Elle m'a pris des professeurs.
Oui.
J'ai toujours eu d'autres professeurs que ma mère, alors que j'admirais ma mère. Je savais qu'elle jouait merveilleusement bien et j'ai toujours aimé énormément.
Alors tout ça se passait à Paris. Vous êtes né dans le 18e arrondissement en 1929. Vous êtes un Parigot, on peut dire.
Montmartrois.
Un Montmartrois.
J'habitais Paul Féval.
Un vrai Montmartrois.
Oui, en haut de Montmartre.
Voilà. Mais vous vous appeliez à l'époque Hubert Metzger, qui est un nom d'origine alsacienne.
D'origine alsacienne. Mon grand-père étant alsacien, ayant quitté l'Alsace parce qu'il n'aimait pas les Allemands, comme la plupart des Alsaciens. Et il est comme professeur d'allemand.
Voilà.
C'était facile pour lui. Mais à Saint-Ignace de Loyola, c'est-à-dire un collège avec des pères.
Mais pourquoi alors est-ce que Metzger a pris pour pseudonyme De Gex ?
Lorsque j'étais encore au lycée, je sais plus quel âge j'avais, mais j'étais très jeune, et je suis rentré à la SACEM. Parce qu'à l'époque, quand je suis rentré à la SACEM, il fallait 6 chansons éditées.
Chansons, voilà.
J'ai eu 6 chansons tout de suite avec des camarades du lycée. 3 camarades qui m'ont chacun fait
des paroles.
Et l'éditeur m'a dit « Metzger, là, c'est pas un nom à prononcer, ça. Vous vous appelez autrement. » Alors j'ai dit « Je suis à Gex tous les ans, alors appelez-moi De Gex. »
Ah, parce que vous alliez en vacances là-bas, tout simplement.
Ben oui, il y avait la maison de ma grand-mère et de mon grand-père quand il était vivant, oui.
Voilà, en tout cas, vous avez écrit ces premières chansons parce que vous vouliez devenir musicien et vous avez quand même suivi une formation assez sérieuse puisque vous avez même été suivre les cours de Maurice Duruflet au conservatoire.
Ah oui, c'est exact, c'est des cours de contrepoint.
Mais vous saviez ce que vous vouliez faire exactement
à ce
moment-là ?
Oui. Je voulais être compositeur.
Compositeur.
C'est donc c'est pour ça que j'ai appris le contrepoint, l'harmonie et tout ça. J'avais comme professeur d'harmonie la femme de...
Madame Plécossade.
Madame Plécossade, qui était la femme de Monsieur Plécossade, qui était mort, mais qui était un professeur d'harmonie du conservatoire de Paris.
Et c'est donc un petit peu Jerry Mengo, dont vous avez parlé tout à l'heure, qui vous a un peu mis le pied à l'étrier quelques années plus tard dans le métier.
Pas exactement. Sa mère était américaine, harpiste, et son père était, je ne sais plus trop quoi, et italien. D'ailleurs, son nom, c'était Giuseppe Mengozzi.
Ah, oui.
Alors, c'est devenu Jerry Mengo. C'est un type que j'aimais beaucoup, que j'admirais beaucoup. Il jouait merveilleusement la batterie, et il chantait très bien. Et bon, donc, si, je l'admirais, moi. Et puis, j'étais heureux de travailler avec lui, parce que c'est extraordinaire. J'avais 18 ans, il m'appelait le Mouflet, d'ailleurs.
Oui.
Et je travaillais dans un petit orchestre du côté des Champs-Élysées. Et un des musiciens me dit « Hubert, faudrait que tu viennes avec moi dimanche. Je vais voir Jerry Mengo, parce que je pars avec lui, moi, à Monte-Carlo. Mais il cherche un pianiste. Alors je voudrais te présenter à lui, on ne sait jamais. » Oh, je suis très ému, moi, de rencontrer Jerry Mengo au Hot Club de France, évidemment. On y a été, et Jerry Mengo m'a dit « Bon, bah, pas de problème, du moment que Raymond Goutard me dit que je peux te prendre, je te prends. »
Et voilà.
Et je lui demandais même pas d'argent. J'avais 18 ans, moi, j'étais tellement content de travailler dans un orchestre comme le sien. Et il me dit, il demande à certains de nos copains qui étaient au votre club de France, « Combien je vous paye en ce moment ?»« Ah oui, ben t'auras pareil.
» Tout simplement. Et c'est comme ça que l'aventure a commencé.
Oui.
Jerry Mengo a été donc le premier à vous engager, mais peu après, vous êtes devenu aussi le pianiste d'une très grande artiste qu'on va évoquer dans un instant. C'était Madame Agnès Capri.
De maman, j'ai les yeux de feu, de papa, le cheveu qui frisotte. C'est tout ce que m'ont laissé mes vieux. Ma mère aimait les beaux garçons, mon père lui courait les bouges. Moi je restais à la maison, à pleurer près du poisson rouge. J'aurais pu devenir danseuse, brodeuse, rempailleuse, ou même blanchisseuse. Mais pour chanter ma vie perdue et les gifles que j'ai reçus, j'ai préféré devenir chanteuse. Un jour le poisson rouge est mort pour avoir bu l'eau du bocal. De désespoir j'ai fait alors ma malle. Et je suis partie pour Paris avec 12 sous dans ma poche. Je voulais vivre enfin cloche. J'aurais pu devenir danseuse, brodeuse, rempailleuse, ou même blanchisseuse. Mais pour chanter ma vie perdue et le gifle que j'ai reçu, j'ai préféré devenir chanteuse. Les privations, ça me connaît. Et parfois, quand le destin m'écrase, je louche vers le robinet du gaz. Il y en a de moins malheureuses que moi qu'on fait le grand plongeon dans la Seine. Mais comme je trouve ça trop froid, j'aime mieux oublier ma peine. J'aurais pu devenir danseuse, brodeuse, rempailleuse, ou même blanchisseuse. Mais pour chanter ma vie perdue et le gifle que j'ai reçu, je préférais devenir chanteuse.
Agnès Caffry a été l'une des grandes artistes de ce qu'on appelle la chanson poétique, mais elle a travaillé avec les poètes, mais elle avait aussi beaucoup d'humour, de légèreté, de fraîcheur, comme on vient de l'entendre ici, Hubert de Gex, qui avait été donc à vos débuts son pianiste.
Absolument, et pour moi c'était un grand plaisir, vraiment, parce que je la trouvais merveilleuse. Elle avait des chansons merveilleuses. Connaissez-vous Camille, 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 reine de la camomille au pied de l'éléphant. Ta da da di da da, ta da da di da da, ta da 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 da. C'était Capri, ça. Alors moi j'étais chez Thierry Mingot, on était à côté de Nice là, et je reçois des lettres de Agnès Capri me disant je vous voudrais comme pianiste. Je sais pas pourquoi, qui lui avait conseillé, qui lui avait parlé de moi. J'avais 18 ans, j'étais tout jeune. Ouais. Et elle m'écrit une deuxième lettre, elle me dit dites-moi votre prix, ce sera le mien. Mais c'est vrai, je vous jure. Ouais. J'ai montré ça à Thierry Mingot, il m'a dit, bah écoute, faut que tu ailles avec elle. Vas-y, puis quand tu auras fini, tu vas pas rester peut-être 10 ans avec elle, mais tu reviendras avec moi.
Alors vous faisiez un tour de chant, vous avez chanté un peu partout, et dans son propre cabaret...
Y compris dans son propre cabaret qui se trouvait rue Molière.
Agnès Capri, ça a été vraiment donc un peu celle qui vous a formé au métier de pianiste accompagnateur, d'une certaine façon.
Peut-être, oui. C'était normal pour moi d'accompagner quelqu'un au piano et je le faisais sans difficulté.
Et donc, Hubert de Gex, juste après ces années avec Agnès Capri, finalement, vous avez failli changer de voix. Vous êtes parti en Indochine pour tout à fait autre chose que la musique.
Pour vendre des voitures.
Pour vendre des voitures. Comme vous nous disiez tout à l'heure, c'est là-bas que vous avez entendu notamment les frères Jacques. Et vous êtes resté donc là-bas quelques années. Mais qu'est-ce qui vous a poussé à revenir en France et à reprendre la musique alors?
Un petit peu mon père. Oui. Et puis, je sais pas. Je peux pas vous dire exactement, mais bon, j'étais content de retrouver la France.
Voilà. Et c'est à ce moment-là que vous avez commencé à travailler donc avec une autre grande artiste qui a été Odette Laure.
Absolument, voilà. Absolument. Elle m'avait écrit lorsque j'étais en Indochine, en me disant « je suis l'ami de Jean Valmans et il me parle tellement de vous ».
Jean Valmans, c'était quelqu'un d'important, c'était...
Ah, c'était un jeune artiste, un très bon chanteur. Il était très copain avec Maria Mouban à l'époque, avec des gens comme ça.
Vous aviez même formé un petit trio vocal avec lui.
Et avec Louis Jourdan.
Louis Jourdan, qui chantait aussi.
Ben oui, il était revenu des États-Unis et il nous avait apporté de la musique, des chansons. C'était Don't fence me in, don't fence me in. On faisait un petit trio vocal avec Louis Jourdan, qui a été un grand artiste aux États-Unis.
Hein. Et donc, Jean Valmans vous a présenté Odette Laure, avec qui vous avez commencé à travailler.
Ah oui, mais pour elle, ça faisait aucun problème, c'est moi qui devais devenir. Faut dire qu'elle avait un pianiste avant moi, qui jouait pas mal du piano, mais je l'ai connu par procuration. Parce que ma compagne l'avait connue aux deux ânes. Ouais. Je ne donne pas son nom, puisque je ne vais pas dire que du bien de lui. Alors,
Et alors donc, la rencontre avec Odette Laure, ça a marché tout de suite
Tout de suite. Voilà. Elle m'a même prêté sa voiture, parce que j'en avais pas en arrivant comme ça. Il a fallu que j'en achète une ou que j'en loue une, je sais plus.
Et alors, c'était quel genre de femme?
Oh, une femme très intelligente. Oui. Très intelligente.
Qui avait beaucoup d'humour dans ses chansons, en tout cas.
Bien sûr, ouais. Bien sûr. J'ai eu la chance d'accompagner que des gens que j'aimais. Que j'aimais comme artiste.
Oui. Et que vous admiriez vraiment.
Et que j'admirais vraiment.
Oui. Alors, en préparant cette émission, donc Hubert de Jacques, j'ai cherché un peu dans la discothèque de Radio France quelques vieux enregistrements de vous. Et alors, dans le genre un peu étonnant, je suis tombé sur ce 45 tours dans lequel le chœur et l'orchestre Hubert de Jacques interprètent une marche intitulée « Les Africains ».
Ah oui.
De l'Afrique, gardiens jaloux de nos couleurs, quand sous un soleil magnifique retentissait ce cri vainqueur, en avant, en avant, en avant. C'est nous les Africains qui arrivons de loin, nous venons de nos pays pour sauver la patrie. Nous avons tout quitté, parents tourbés, foyers. Et nous gardons au cœur une invincible ardeur, car nous voulons porter haut et fier le beau drapeau de notre France entière. Et si quelqu'un voulait nous séparer, nous serions tous lutter jusqu'au dernier. Gratter pour vous, à nos amours, pauvre pays, pauvre patrie, mourir au loin, c'est les Africains. Pour le salut de notre empire, nous combattons tous les vautours. La faim, la mort nous font sourire, car nous luttons pour nos amours. En avant, en avant, en avant, en avant. Et nous les Africains qui arrivons de loin, nous venons de nos pays pour sauver la patrie. Nous avons tout quitté, parents tourbés, foyers. Et nous gardons au cœur une invincible ardeur, car nous voulons porter haut et fier le beau drapeau de notre France entière. Et si quelqu'un voulait nous séparer, nous serions tous lutter jusqu'au dernier. Lâchez tambour à nos amours, pour le pays, pour la patrie, mourir au loin, c'est les Africains. De tous les horizons de France, groupés sur le sol africain, nous venons pour la délivrance qui par nous se fera demain. En avant, en avant, en avant, en avant. C'est nous les Africains qui arrivons de loin. Nous venons de nos pays pour sauver la patrie. Nous avons tout quitté, parents courbés, foyers. Et nous gardons au cœur une invincible ardeur, car nous voulons porter haut et fier le beau drapeau de notre France entière. Et si quelqu'un voulait nous séparer, nous serions tous lutter jusqu'au dernier. Passez tambour à nos amours, pour le pays, pour la patrie, mourir au loin, c'est les Africains.
Les Africains, on aura reconnu la belle voix de Christian Juin, Hubert de Jacques, dans cet enregistrement. Alors là, c'est effectivement le chœur et l'orchestre Hubert de Jacques, et c'est un disque RCA, parce que c'est dans cette maison de disques RCA que vous avez commencé vraiment à faire le métier d'arrangeur, chef d'orchestre.
Oui, parce que c'est là où Odette Laure m'a présenté.
À
elle
qui,
m'a présenté à Guy Lafarge.
Guy Lafarge, il faut rappeler l'importance de Guy Lafarge, hein, c'était un compositeur d'opérette.
Sûr.
De chansons.
Ah oui, non, il a fait des très belles choses, Guy. Il a fait les...
Il avait fait des opérettes comme Schnock, des chansons comme La Seine.
Oui, La Seine. Oui. C'est une chanson merveilleuse.
Alors, Guy Lafarge, qui était musicien, était également donc directeur artistique chez RCA.
Oui, absolument. Ouais. Absolument. Il me faisait faire beaucoup de disques. On était, je crois qu'on était deux ou trois chefs d'orchestre chez Guy Lafarge.
Vous étiez des chefs d'orchestre attitrés, on vous donnait un artiste, un disque, il fallait faire les arrangements.
Lorsque je suis allé au caveau de la République, j'ai rencontré Martial Carré, qui était directeur du caveau de la République. Et un jour, il me dit, « Ah tiens Hubert, viens, je te présente ma femme. » J'ai dit, ah ben je l'ai connu bien avant toi parce que j'ai fait ses disques chez RCA.
Chez RCA, voilà. Où vous avez travaillé avec quantité d'artistes, hein, effectivement. Et alors, on va écouter justement un des arrangements que vous avez fait à l'époque parce que c'est vraiment très joliment fait. Au fond, comment est-ce que vous aviez appris à orchestrer? Moi, j'ai lu que vous aviez appris notamment dans des livres de Glenn Miller et d'autres musiciens de l'époque.
Ah ça c'est vrai, c'est Jerry ça. Et c'est ma mère qui a été achetée, Glenn Miller, Frank Skinner.
Oui.
Et qui encore.
Et c'était donc des livres en anglais, des traités de d'instrumentation, d'orchestration.
Absolument. Voilà. Mais j'ai eu aussi un traité d'instrumentation en français.
Et donc, vous avez commencé, à faire tous ces listes d'arrangements. Je propose qu'on en écoute un avec justement la charmante Odette Laure. C'est tout un disque 25 cm que vous avez fait avec elle et dans lequel figure cette chanson que j'adore qui s'appelle, en plus, c'est le quartier de la maison de la radio, à Passy.
J'ai longtemps rêvé, rêvé d'habiter à Passy, à Passy, à Passy. On est à deux pas du bois. À Passy, à Passy, à Passy. Quand on fait du cheval, c'est bien l'idéal. À Passy, à Passy, à Passy. On ne côtoie que des gens distingués, même les agents vous parlent gentiment. Je donnerais n'importe quoi pour habiter dans ce quartier. Question commerçant et ravitaillement. À Passy, à Passy, à Passy, on trouve des primeurs pas plus chers qu'ailleurs. À Passy, à Passy, à Passy, le marchand de poissons a de l'éducation. À Passy, à Passy, à Passy. Et le dimanche à la messe d'11h, on se fait les relations les meilleures. Habiter ce quartier serait pour moi le plus grand des bonheurs. Je ne demande pas de demeurer avenue Mozart, rue La Fontaine, à la Muette ou rue Raynouard. Oh non, je me contenterai d'une petite rue pas très connue. Moi, mon problème, c'est de trouver n'importe quoi dans le 16e et pour arriver. Enfin me loger à Passy, à Passy, à Passy. J'accepterai en somme même une place de bonne à Passy, à Passy, à Passy. Même si on me disait que je serais mal payée à Passy, à Passy, ben tant pis. Mais lorsque le samedi j'irai danser, quand un garçon voudrait me raccompagner, très fier de moi, je lancerai comme adresse au chauffeur de taxi. À Passy, à Passy, chauffeur, à Passy.
Gilles Margaritis présente Musical Parade, orchestre de Bernard Hilda, chœur de Louis Volman, avec les Catalas, Albert Sturm de l'Olympia Musical, les Trianas, les Bagdi du Cabaret du Lido, Daniel Darmance, Koba et Kali, Eric Brenne du Bal du Moulin Rouge, Richard D. Jr. de Bobino Musical, chorégraphie de Miss Bluebell avec les Bluebell Girls du Lido de Paris.
Et d'Odette Laure, nous sommes passés à la télévision, alors avec une émission qui s'appelait Musical Parade. Gilles Margaritis, qui était une grande figure de la télévision de l'époque, et était quelqu'un de très marquant pour vous, Hubert de Gex.
J'ai beaucoup admiré, et il a été d'une gentillesse avec moi, il m'a fait beaucoup travailler, il me faisait faire des choses, mais c'est extraordinaire, et on avait, lorsque malheureusement il a disparu, il a eu un truc au cœur, on était en train de préparer une émission de télévision internationale.
Alors, à l'origine, vous avez été associé donc à cette émission qu'on vient d'entendre, Music Hall Parade. Hein. Oui. Mais alors, on entendait l'orchestre Bernard Hilda.
Oui.
Hein. Voilà,
c'était... oui, c'était l'orchestre Bernard Hilda. Et lorsque Bernard Hilda était absent, ce qui arrivait assez souvent, oui, c'était Hubert de Gex qui était le chef d'orchestre.
Voilà, mais vous étiez en bon terme tous les deux avec Bernard Hilda.
Tout à fait.
Qui était un chef d'orchestre important de l'époque, qui dirigeait aussi la piste aux étoiles. Hein.
Et oui, mais moi aussi.
Et vous aussi en alternance.
Ben bien sûr. Et je portais un costume de cirque, quoi, bien sûr.
Vous avez également travaillé avec Henri Spade à la télévision,
oui,
autre grande figure de l'époque.
J'ai dû me fâcher avec lui parce qu'il m'avait dit « Oui, je t'engage, mais fais attention parce que vous autres, les musiciens, quand on vous engage, vous vous faites remplacer par d'autres si vous avez autre chose. » Ah, j'ai dit « Non, c'est pas mon genre, ça. » Mais il se trouve qu'on m'a demandé de rejoindre l'Indochine.
À ce moment-là.
Et j'ai été lui dire, tu sais, je dois m'en aller, mais c'est pas pour te faire une vacherie, c'est parce que on m'appelle, regarde la lettre que j'ai reçue.
Voilà, ces années, en tout cas, donc d'émissions de télévision avec Gilles Margaritis, Bernard Hilda, dont vous avez accompagné également la sœur Irène Hilda.
Irène, oui, mais pour faire ses disques. Alors,
pour faire ses disques, voilà. Oui, mais... Alors, on peut évoquer encore quelques-uns de tous ces artistes que vous avez croisés ou accompagnés chez RCA. Vous avez parlé tout à l'heure de Josette Privat, la femme de Martial Carré.
Oui.
Mais on aurait pu citer aussi un baryton d'opérette qui s'appelait Bernard Alvy.
Ah oui ?
Oui.
Qui chantait très bien d'ailleurs.
Et puis également Souris, qu'on a un peu oublié aujourd'hui.
Ah oui, c'est vrai. Oui, oui. J'ai fait beaucoup de choses chez RCA.
Et puis un certain Claude Carrère, qu'on ne connaissait pas encore comme producteur de disques, mais qui était un jeune chanteur de l'époque.
Oui, oui. Et un boxeur aussi. Il était boxeur.
Ah bon ?
Mais un très bon copain aussi.
Vous avez fait beaucoup de disques ensemble, hein ?
Ah oui, pas mal, oui. Il chantait pas mal d'ailleurs. Mais ce qu'il chantait, c'était pas tellement ce que j'aimais. Mais
c'était quoi ce que vous aimiez, vous ?
Les jolies chansons.
Et puis alors, dans toutes ces époques, Hubert de Gex, vous avez aussi continué à composer, j'ai envie de dire pour votre plaisir, des œuvres de facture plus classique, hein, des œuvres instrumentales,
oui, absolument,
assez nombreuses.
Absolument, et ça, c'était pour me faire plaisir, c'est vrai.
Oui, c'est ça.
J'avais envie de faire ce genre de truc.
On pourrait aussi mentionner alors les artistes avec qui vous avez travaillé pour le label Vogue, hein, qui est devenu votre deuxième maison, si je peux dire.
Oui, absolument.
Comment ça s'est produit
Ça s'est produit qu'on m'a appelé pour accompagner quelqu'un.
Voilà.
Tout simplement, et on m'a dit, il faut croire que je faisais bien mon travail puisqu'on m'a rappelé. C'est toujours ce que j'ai pensé d'ailleurs, je me suis dit, je suis un bon ouvrier.
Un bon artisan.
Oui, je sais pas pourquoi je pensais ouvrier, moi.
Ouvrier, plutôt.
Mais je me disais, c'est pas mal d'être un bon ouvrier.
Et parmi ces artistes de la jeune génération, alors on peut en mentionner quelques-uns, dont vous vous rappelez, il y a eu Rita Cadillac. On l'a appelé aujourd'hui, Rita Cadillac.
Je vous ai apporté un disque de Rita, d'ailleurs.
Oui. C'était une artiste que vous aimiez beaucoup.
Ah, elle était gentille, elle était formidable.
Oui.
Ah, elle était formidable et elle chantait bien.
Et puis, après Rita Cadillac, vous avez travaillé avec Jean-Claude Darnal. Il y avait une sympathie avec Jean-Claude Darnal, c'était un
complice. Oui, on s'entendait très bien, on était très, très amis. C'est moi qui faisais ses disques. Alors, il y a une petite chose, mais je peux pas dire que je l'en veux pour ça, mais je me suis dit, il a quand même un petit peu exagéré. J'avais fait, dans une des chansons que j'accompagnais pour lui, un petit contre-chant, qui était tout à fait différent de ce qu'il chantait, mais dont il s'est servi pour faire de la musique de scène.
Ah oui.
Alors je me suis dit, il aurait dû me demander, ça aurait été mieux. Mais j'en ai jamais voulu.
Alors quand vous faisiez des disques avec tous ces artistes et avec votre orchestre, les musiciens étaient recrutés par qui, tous ces musiciens qui faisaient les séances ?
J'avais les mêmes musiciens que Michel Legrand.
Ah bon,
parce que oui, je vais vous dire pourquoi. Parce que on avait le même type qui nous les commandait. Oui. Et quand je disais à ce musicien qui me commandait les musiciens, je dis tiens, j'ai une séance mercredi. Il me dit ah non, c'est pas possible parce que le grand a une séance aussi. Donc il faut que tu te prennes un autre jour.
Ah oui, voilà.
J'ai dîné un soir avec le grand qui a été très chic avec moi.
Ah oui.
Il m'a dit, tu vois, les musiciens, ils veulent tous que je les emmène aux États-Unis. Mais j'arrête pas de leur expliquer qu'aux États-Unis, il y a des très bons musiciens.
Oui, c'est ça.
Donc on n'en a pas besoin. Il me dit, par contre, toi, moi, si tu viens, il faut que tu sois capable de vivre pendant un an sans gagner un sou. Et moi, je te fais venir, je te présente, je te mets dans le coup, vraiment. Et là, tu verras, tu auras des belles affaires.
Et ces années-là, donc Jean-Claude Dejecq, c'est aussi l'arrivée, oui, de nouvelles chansons qu'on pourrait qualifier de yéyé, des chansons plus légères. Et alors, parmi celles que vous avez accompagnées et arrangées, je ne connaissais pas du tout, il y a un duo d'artistes très amusant qui s'appelle Jacqueline Monsigny et Marie-Blanche Verne.
Alors, Jacqueline Monsigny, c'était la femme à l'époque, je dis bien à l'époque, de celui qui me faisait travailler, François Chatel.
Oui.
Bon. Et Marie-Blanche Vergne était l'épouse de Jean-Christophe Averty.
Ah oui, tout simplement.
Voilà. Et moi, j'étais copain aussi avec Jean-Christophe. J'étais pas son musicien, mais lorsque le sien lui faisait défaut, il faisait appel à moi quand même, ce qui était très gentil.
Et j'ai justement sous les yeux un 45 tours de Jacqueline Monsigny et Marie-Blanche Verne, avec une chanson d'Hubert de Gex, accompagnée par votre orchestre, Hubert de Gex et François Chatel, dont vous nous avez parlé. Oui. Ça s'appelle « On cuit, on cuit ».
Cuit, 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 je cuis, je cuis.
8, 9, 10, 11, on bronze, on bronze.
Dès le matin, au soleil, inlassablement. En maillot de bain, allongé, invariablement.
Cuit, 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 je cuis, je cuis.
8, 9, 10, 11, on bronze, on bronze.
Tant qu'il fait chaud sur la plage, éternellement. Côté ventre, côté dos, mathématiquement.
Le bruit de la mer,
l'ombre solaire,
et prendre le temps de ne rien faire.
Une vieille chouette
fait la trompette.
Bravo, chère madame, c'est très bien.
Cuit, 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 je cuis, je cuis.
8, 9, 10, 11, on bronze, on bronze.
1, 2, 3, 4, expirez, le maître nageur, expirez. 2, 3, 4, soutiens le baigneur.
Au fil des heures, je m'étire voluptueusement, en pleine chaleur pour bronzer intelligemment.
Oh, Hubert!
Je passe ma vie sur le sable agréablement, sans penser, sans rêver adorablement.
La somnolence
et l'insouciance sont les deux mamelles des vacances.
Les jeux de plage,
ça met en âge.
Ce n'est pas sage pour le bronzage.
Cuit, 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 je cuis, je cuis.
8, 9, 10, 11, on bronze, on bronze.
Durant l'été, faut bronzer immanquablement.
Âprement, bigrement,
invariablement.
Mathématiquement,
voluptueusement,
cérébralement,
inlassablement.
C'est bien orchestré, hein? Cher Hubert de Gex, non, j'aime bien. Mais en tout cas, voilà. En plus, elle dit.
Mais c'est pas moi qui ai mis ça dans l'orchestration. C'est elle, les filles, qui ont dit oh, Hubert. Oui.
Oui, on les entend, c'est à vous qu'elle s'adresse. C'était,
oui,
c'était une petite plaisanterie, bien évidemment. Dans ce disque 45 tours donc, de Marie-Blanche Verne et Jacqueline Monsigny. Alors là, on est tout à fait à l'aube des années 60, des 60s. Et c'est à ce moment-là donc, que vous commencez à travailler. Je voudrais que vous nous racontiez un peu avec Pétula Clark. Ça, c'est une rencontre, je crois, très importante dans votre vie. Racontez-nous un peu, oui.
Voilà, à une période, Gilles Margaritis, lorsque c'est moi qui devais diriger l'orchestre, me vient à la maison et me dit « La semaine prochaine, on aura Pétula Clark ».
Qui était déjà connu en France à ce moment-là.
Ah oui, oui, d'accord. Très connu. Oui. Ah, je lui dis « Oh, je suis ravi parce que j'adore Pétula Clark ». Il me dit « J'ai demandé à son agent de vous envoyer ses musiques ». Pour que vous puissiez les voir, etc. Et Pétula vient, elle parlait pratiquement pas un mot de français, ou disons qu'elle parlait quelques petits mots de français. Ouais. Elle était à côté de moi l'après-midi, au Moulin de la Galette, c'est là où on faisait les enregistrements. J'avais un orchestre de 50 musiciens à peu près, avec des chœurs, avec tout ce qu'il fallait. Et puis, au bout d'un moment, elle me tape sur le bras, et elle me dit, en anglais, bien sûr, Hubert, je crois qu'il y a un musicien qui a fait une fausse note. Un fa dièse au lieu d'un fa naturel. Et j'arrête l'orchestre. Et il y a un musicien, Toto Grasset, que je connaissais très bien, qui me dit « Hubert, excuse-moi, avancez, là, j'ai deux avancées, j'ai fait un fa dièse au lieu d'un fa naturel.
» Ah ouais.
Je lui dis « C'est pas grave. » Et je me suis retourné après, à la fin, vers Pétula, et je lui dis « Mais vous êtes une merveilleuse musicienne. »
C'est extraordinaire.
Pour avoir entendu une fausse note dans un orchestre pareil.
Ah oui, c'est assez extraordinaire.
Ah oui, ah oui.
Et assez rare, il faut dire, chez les chanteurs, peut-être, quand même.
Ah oui, oui, oui.
Voilà, et vous avez donc commencé à enregistrer ensemble.
Alors, on a répété, on a fait l'émission. Et pas le lendemain, je crois, le surlendemain, je reçois un coup de fil de Vogue, me disant, monsieur De Gex, est-ce que vous pourriez faire les orchestrations des chansons de Pétula Clark ?
Pour son prochain disque.
Oui.
Ah oui.
J'ai dit, oh oui, avec plaisir même. Et c'est ce que j'ai fait.
J'ai écouté, moi, ces disques, c'est vrai qu'ils sont magnifiquement orchestrés, arrangés. Alors, je propose qu'on écoute tout de suite, justement, une de ces chansons, qui est de Jean-Claude Darnal, d'ailleurs, « Tu es ma pluie ou mon beau temps ».
Oui.
Orchestrée, donc, arrangée par Hubert De Gex avec oui. Pétula Clark.
Ah oui, j'aime beaucoup aussi ce disque, c'est très joli.
Quand je vois que tu t'ennuies, moi j'entends tomber la pluie, et mon cœur est tout transi, tout transi. Quand je vois que tu t'ennuies, oui, 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 quand je vois que tu t'ennuies, quand je vois que tu t'en vas, je me sens soudain très lasse, et dans mon cœur bat ton pas à pas. Quand je vois que tu t'en vas, oh là là, quand je vois que tu t'en vas. Oh, toi que j'aime, que j'aime tant, tu es ma pluie et mon beau temps. Quand je vois que tu reviens, le ciel est bleu, je suis bien. Mon cœur te prend par la main, par la main. Quand je vois que tu reviens, tu reviens. Quand je vois que tu reviens. Quand je vois que tu souris, le soleil est dans ma vie, mon cœur est tout ébloui, ébloui. Quand je vois que tu souris, oui, 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 quand je vois que tu souris. L'hiver, l'été et le printemps, mes quatre saisons, mes quatre vents, tu es ma pluie et mon beau temps.
Pétula Clark en 1960 avec l'orchestre d'Hubert De Gex. Et vous précisiez, hein, c'est important, qu'à ce moment-là, elle parlait à peine le français. On s'en rend pas compte quand on écoute la
quand
chanson.
Quand on entend parler français pour dire ses chansons, c'est extraordinaire.
Oui. Parmi les personnages qui vous ont marqué aussi, vous disiez que vous aimiez les belles chansons, et je crois que quelqu'un qui représente pour vous la belle chanson, ça a été Bernard Dimet.
Bernard Dimet.
Comment est-ce que vous vous étiez rencontré avec Bernard Dimet, Hubert Gégex?
Tout à fait comme ça. Ils avaient présenté une chanson au frère Jacques, qui était Fredo. Fredo, oui, qui était un gangster, comme tous les gens que connaissait Bernard Dimet. Au lieu de lui présenter...
Ah, il connaissait les vrais gangsters, lui, ah oui.
Ah oui, absolument, ah oui, oui, absolument.
Mais alors donc, Dimet, vous le rencontrez comme ça
et... Alors Bernard Dimet, je l'ai vu peu de fois. Une fois comme ça, quand il m'a apporté des chansons, et une fois quand il nous a rapporté un truc, voir les frères Jacques, parce que j'avais dit, les frères Jacques, ils peuvent pas chanter l'autre chanson. Ah, une superbe chanson. Je vais vous dire les deux derniers vers de la chanson des Halles. Les deux derniers vers de Dimet, c'est « Saint-Eustache a gagné, les diables sont partis ». C'est formidable.
Très belle chanson,
les diables, c'est les diables qui sont au hall.
Les évidemment. Diables qui servaient à transporter la marchandise.
Et moi, j'adore cette chanson. J'adore cette chanson et je suis très fier d'avoir écrit la musique de cette chanson. Ce qui est rare pour moi, d'être fier d'avoir écrit une musique.
Mais alors, c'est l'époque, donc Bernard Dimet aussi, où vous étiez avec les frères Jacques. Et alors, il fallait écrire pour quatre voix, c'est pas comme écrire pour une seule voix.
Lorsque j'étais élève, jeune, j'avais un professeur d'harmonie.
Madame Plécossade.
Madame Plécossade, qui m'apprenait l'harmonie. Donc, écrire pour quatre voix, ça...
C'était pas un problème.
Basse, non, puis je connaissais leur voix, je connaissais tout
ça. Vous pensiez à chacun des quatre aussi que
vous écriviez. Bien sûr. Et c'est même moi qui distribuais les personnages, très souvent. Une femme, c'était souvent Soubéran.
Ah bon ?
Je sais pas pourquoi, mais...
Ça arrivait spontanément. Et Paul Touraine, que j'aimais tellement.
C'était toujours la voix d'en haut.
C'était la voix d'en haut.
Et oui.
Voilà. C'est ça, il fallait répartir.
Oui, bien sûr. Bien sûr.
Ça a dû être triste pour vous, la disparition l'un après l'autre de ces quatre merveilleux artistes.
Oh, bien sûr. Je ne dirais pas que le plus triste, c'était Paul, mais c'était le dernier. C'était
Paul Touraine. Dernier, Paul. Oui, c'est vrai. C'était le plus jeune aussi.
Et puis, c'était le plus proche de moi. Moi, j'ai eu 90 ans il y a 6 mois. Paul, il a eu 94 ans ou 93 ans il y a 6 mois.
Ouais.
Donc, il était un peu plus âgé que moi encore. Ouais. Mais on était quand même la même... Puis, je sais pas, on s'entendait très bien. En voiture, c'était les deux frères Bélec, ils étaient tout le temps ensemble. Ouais. Souvent, ils prenaient Soubéran. Et moi et Paul, on était tout le temps ensemble.
Voilà.
Enfin, Paul et moi.
Et ces dernières années, vous avez fait encore mille choses, heureusement, Hubert Gégex. Vous avez même fait de la voltige aérienne.
Voilà, hein. Voilà. Et ça, ça a été pour moi une merveille aussi. Parce que je parlais de voltige aérienne avec des gens qui étaient professeurs de voltige. Et je me dis, oh, ça me ferait peut-être du bien pour devenir meilleur pilote. Et c'était un plaisir, mais vraiment une joie.
Voilà quelques aspects, en tout cas, d'une vie très riche, Hubert Gégex, et qui se prolonge aujourd'hui sur les bords de la Marne, au pays de la chanson, on peut dire, puisque vous habitez Nogent-sur-Marne.
Ah oui, c'est vrai.
Tout près des Guinguettes.
Oui, c'est vrai.
Puis parfois, de temps en temps, vous allez à Paris, aux Deux Ânes, applaudir votre compagne, Florence Brunold.
Bien sûr.
Voilà.
Bien sûr.
C'est ainsi qu'on va se quitter avec peut-être justement cette chanson de Bernard Dimet, Fredo, que j'adore.
Par les frères Jacques.
Par les frères Jacques, voilà. Ouais. Composition d'Hubert Gégex, paroles. Oui. De Bernard Dimet, merci d'avoir été avec nous ce matin.
Eh bien, merci à vous de m'avoir accueilli, d'avoir été si gentil.
On le connaît depuis la communale, le gars qui est là sur la photo, à la première page du journal, mais on le reverra pas de si tôt.
Il a saigné de vieilles mères
et buté trois flics.
Certainement sur un coup de colère, vu qu'il est pas méchant Fredo.
Il a pillé la Banque de France pour rendre service à des copains.
Pour améliorer leurs finances,
faut bien que tout le monde y gagne son pain.
Il y a deux, trois employés de la banque qui ont pris de la mitraille plein la peau.
Bon Dieu, dans ces cas-là, on se planque, mais c'est pas sa faute à Fredo.
Il a liquidé sa frangine,
une salope,
une rien du tout,
parce qu'il voulait plus qu'elle tapine.
Elle a calangé sur le cou. Ça c'est des histoires de famille, ça regarde pas le populon. Et puis c'était jamais qu'une fille, à part ça les gentils Fredo.
Il avoue qu'on fait du chantage.
C'était plutôt pour rigoler, pour avoir l'air d'être à la page.
Et les mômes qu'il a chouravés, c'était des petits morveux de la haute
qui bouffent du caviar au kilo. Tout pour les uns, rien pour les autres.
C'est pas juste, il disait Fredo.
Il a fait la ramdam chez les Corses, un soir qu'il avait picolé. Et comme il connaît pas sa force, les autres ils ont pas rigolé.
Raphaël a sorti son lingue,
bref tout le monde s'est troué la peau. Ça c'est vraiment l'histoire de dingue, vu que c'est tous ses potes à Fredo.
L'histoire des deux voyous de Pigalle qu'il a flingué d'un cœur léger.
Moitié cave, moitié pédale.
Il fallait bien les corriger.
Sinon, peu à peu, qu'est-ce qui se passe? Un jour, ça s'allonge au perdreau.
Total, qui c'est qui paie la casse?
C'est nous, Zig, il disait Fredo.
Un coup de pique-feu dans le péritoine, et Fredo s'est retrouvé comme ça. Le cul sur le faubourg Saint-Antoine, qu'est-ce qu'il foutait dans ce quartier-là? Bien sûr, il s'est retrouvé tout de suite avec les poulets sur le dos.
Maintenant, vous connaissez la suite,
vous l'avez lu dans les journaux.
Un garçon qui avait tout pour faire, impeccable mentalité,
délicat,
correct en affaires.
Bref, il avait des qualités. Ça fait mal quand on imagine, en train de basculer sous le couteau de leur saloperie guillotine.
Un mec aussi gentil, Fredo.
Fredo, une chanson de Bernard Dumay sur la musique d'Hubert de Gex, qui était ce matin mon invité. Vous pouvez retrouver beaucoup d'autres de ses chansons interprétées par Odette Laure, Jean-Claude Darnal, Pétula Clark ou encore les frères Jacques. Caprice comme ci, comme ça, mais Caprice joué à la tzigane par un merveilleux artiste, Béla Babaï, qu'on appelait parfois le roi du violon tzigane. Et il a enregistré en particulier dans les années 50 un disque diffusé dans le monde entier qui s'appelait « Joue pour moi tzigane ». Ça fait partie des artistes qui viennent d'être rassemblés dans un très beau coffret chez Frémo et Associés. Ça s'appelle « Tzigane, souvenir de Hongrie 1954-1959 ». Et ce sont donc des rééditions de grands violonistes et artistes tziganes, comme Béla Babaï, Gyula Toki Horvat, Lajos Boros ou encore Sandor Lakatos. Trois CD pour découvrir ce merveilleux répertoire. Trois CD qui viennent donc de paraître chez Frémo et Associés.
Étonnez-moi Benoît, Benoît Dutertre, France Musique.
Et toujours dans l'actualité, je voudrais aujourd'hui terminer cette émission avec l'opérette à l'affiche dans plusieurs endroits en France, avec des œuvres rares qu'on a vraiment très très envie de découvrir. La première, eh bien, c'est à Paris, d'ailleurs tout près de la Maison de la Radio, dans ce quartier de Passy que nous chantait tout à l'heure la charmante Odette Laure, au théâtre du Ranelagh, un des plus jolis théâtres parisiens. Et là, vous allez pouvoir découvrir demain dimanche à 11h du matin et le dimanche suivant également à 11h du matin, donc deux représentations, Le Voyage de Messieurs Dunanan, Père et Fils, étrange titre d'un opéra bouffe de Jacques Offenbach de 1862. C'est une histoire tout à fait loufoque, puisque ce sont deux Auvergnats qui veulent aller visiter Venise, et puis ils se font manipuler par des escrocs qui les entraînent à Paris en leur faisant croire que c'est Venise. Et c'est toute l'histoire donc de cette opérette à la biche, très loufoque, montée et mise en scène par Pierre Catala et Geoffroy Bertrand, dont j'avais beaucoup apprécié un tour de chant qui s'appelait Offenbach au menu, avec des quantités de recettes culinaires d'Offenbach. Et bien, c'est lui qui met en scène donc ce petit spectacle au Ranelagh. Et on va d'ailleurs écouter un extrait donc du Voyage de Messieurs Dunanan, Père et Fils, dans lequel les héros, justement persuadés qu'ils sont à Venise, alors qu'ils sont à Paris, entendent des chansons dans le style italien, ou du moins du faux italien à la Offenbach, où on met des A à la fin des mots pour faire croire que c'est de l'italien.
Venezia, la bella, la Catarina, promenada alla gondola, la Catarina, iglissa, la gondola leggerà, iglissa, che sulla gran canala, la Catarina, la Catarina.
Patrocle,
papa,
une chanson sur Venise. Tu entends? Venezia la belle. Oh, continuez, virtuose, continuez. Oh, je suis ému.
Attends, j'en tiens un bon.
Oh, pescatore di laguna, la Caterina. E che bella barbiona, la Caterina. La tuela fritura, mangiala. La tuela fritura, oh buona barbiona, iupla Catarina,
iupla Catarina.
Venezia la Bella, c'est donc un extrait de cette opéra bouffe d'Offenbach, Le Voyage de Messieurs Dunanan, Père et Fils. Là, c'était les interprètes de la troupe de Radio Lyrique, mais vous pouvez donc redécouvrir en vrai ce spectacle au théâtre du Ranelagh les deux prochains dimanches à 11h du matin, dans la mise en scène de Pierre Catala et Geoffroy Bertrand. Et puis je voudrais aussi vous recommander, ce sera le week-end prochain à Toulon, la redécouverte d'un compositeur qui s'appelle Gaston Serpette, avec une œuvre au titre irrésistible qui s'appelle Le singe d'une nuit d'été. Voilà, référence à Mendelssohn, détournée par un compositeur d'opérette de la fin du 19e siècle. Tiens, j'en profite pour m'arrêter justement quelques instants à la personnalité de Gaston Serpette.
Soldo,
pomme de terre,
si fin,
carotte,
ainsi,
cela doit faire,
l'ami,
un franc,
cela,
puis des poireaux, haricots, de boisseaux,
cela, si, do, ré, mi, do,
du sel,
si, la, sol,
et de la graisse,
la, si, do, ré,
sans cœur,
si, la, sol, fa,
cela, paresse,
cela, si, do,
cela nous fait bientôt, en comptant le gigot,
sol, si, ré, mi, do, ré, si, do, la, si, sol,
et de 10 francs 5
francs, sol, si, la, si, la, si, la,
mon Dieu, que tout augmente,
cela, sol, la, sol,
près de 10 francs 50,
sol, si, la, sol, famille,
en comptant le gigot.
Sol, la, si, do, ré, mi, do. Sol, do.
Mouchoir.
Sol, la, sol, si.
Peignoir.
Pas, si.
Serviette.
Pas, sol, fa, la.
Chaussette.
Oui, sol.
Et puis.
La, si, do, ré, do, si, do, si, la, si.
Douze chemises de nuit.
Sol, do.
Deux chemisettes.
Sol, la, sol, si.
Trois collerettes.
Pas, si.
Tablier blanc.
Pas, sol, fa, la.
Ça fait cinq francs.
Sol, fa, sol, si. Sol, 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 fa, sol, mi, ré, ré.
Vraiment, cela devient exorbitant. Toutes ces blanchisseuses.
La, si, la, si, la, si, la.
Sont quelque peu voleuses.
Sol, la, sol, la, sol, la, sol.
Oui, c'est une infamie.
Sol, do, si, la, sol, fa, mi.
C'est plus que ça ne vaut.
Sol, la, si, do, ré, mi, do.
Ne chantez pas comme ça, ça me trouble dans mes comptes.
Voilà une vraie conversation de couple. Elle ne pense qu'à ses comptes et à ses commissions. Lui ne pense qu'à la musique. Cet extrait de Cousin, cousine de Gaston Serpette, encore un enregistrement de la radio interprété par Henri Bédex et Germaine Duclos. Malheureusement, le singe d'une nuit d'été qui va être donné à Toulon, on n'en a pas d'enregistrement, mais on a quelques pages de Serpette à la radio, donc de ses merveilleuses archives des années 50-60. Il faut juste souligner que Serpette, qui était un élève d'Ambroise Thomas, un grand prix de Rome, qui avait failli faire une carrière de droit, s'est finalement tourné vers le petit genre qu'est l'opérette, et il l'a fait avec beaucoup de talent, même s'il est mort un peu jeune pour peut-être être entré tout à fait dans la postérité. Son art, son musical, eh bien, je vous propose d'en écouter un autre témoignage avec cet extrait toujours de l'opérette Cousin, cousine qu'on vient d'entendre. Et là, il s'agit plutôt d'un duo amoureux avec la belle voix de Lina Dachary.
Quand on a votre âge, on doit, je le gage.
Voyons donc si vous devinez.
Causer de poupées fort bien habillées.
Oh non, monsieur, vous vous trompez.
Poussez la toilette, petite coquette.
Qui me tracasse? Oh non, vraiment.
Superbe parure, dentelle guipure.
Non, je m'en moque absolument.
Ni les bijoux, ni les poupées, ni les dentelles, ni rubans, à quoi peuvent être occupés des cerveaux de 17 ans?
Oui, deux par deux, le plus souvent, chacune au bras de son amie, on se promène gravement en dissertant des mille choses de la vie. Puis, quand le jour s'achève, on songe encore en s'endormant aux projets faits en papillon. Tenez, voici mon dernier rêve.
Voyons donc votre dernier rêve.
J'étais de blanc tout habillé.
Lina Dachary en duo avec Aimé Donia dans cet extrait de Cousin Cousine, opérette en trois actes de Georges Serpette, enregistrement de Radio Lyrique sous la direction de Jean Brébion. Et donc Serpette, eh bien vous pouvez le redécouvrir samedi prochain, le 16 novembre, à l'Opéra de Toulon, dans un spectacle qui avait déjà été donné à l'Odéon de Marseille, un spectacle mis en scène par l'excellent Yves Coudray, dirigé par Chloé Dufresne, et dans lequel figurent donc deux petites opérettes en un acte, Le singe d'une nuit d'été, cette histoire à découvrir donc de Serpette, et puis le très joli Pomme d'Api de Jacques Offenbach. Vous retrouvez toutes les informations sur le site de l'Opéra de Toulon.
Véronique, Véronique, oh Véronique, toi t'arrêtes, l'amour, l'amour, ça va toujours, quand le printemps vient en chantant, le guire plein des longs baisers, dans les amants. Pas besoin de disco, quand le printemps raconte, l'amour, l'amour, ça va toujours. Véronique, un matin, sentit dans son cœur soudain, chose, sa cause. C'était un doux frisson, l'amour comme une chanson, montée des buissons.
Voilà, c'était encore le petit clin d'œil à Berlin avec ce chef-d'œuvre Véronica der Lenz ist da. Donc ici, dans la version française, Véronique, le printemps est là, bien sûr, par les comédiennes harmonistes berlinois, s'il en fut, mais berlinois exilés pour les raisons qu'on sait. Et notamment en France, en cette année 1933, ils ont enregistré cette chanson, ils ont passé, heureusement pour nous, un certain temps en France, avec beaucoup d'enregistrements en français. C'était des artistes extraordinaires, donc ces comédiennes harmonistes. Et vous le savez, Berlin est donc à l'honneur tout le week-end sur France Musique. Et puis l'actualité discographique est riche, puisque je viens de recevoir aussi un merveilleux coffret consacré à André Pop. 6 disques, où l'on découvre des quantités de chefs-d'œuvre. On y consacrera d'ailleurs toute une émission le 4 janvier prochain avec le fils d'André Pop.
Thank you.
voilà, tout le génie d'une musique légère, apparemment très simplement séduisante, mais pleine de petites acidités, de petites drôleries. C'était l'art si particulier d'André Pop, ici dans la danse des sosies de 1956, extraite de son album Musique en tout genre. On en reparlera donc dans cette émission. Mais quoi de mieux pour terminer notre programme qu'une grande valse viennoise? Je vous propose de retrouver Joseph Strauss et son Harmonie Céleste, interprétée par Clemens Krauss à la tête de l'Orchestre Philharmonique de Vienne, qui fut d'ailleurs Clemens Krauss l'inventeur du concert du Nouvel An. Pensez-y, parce que ça approche.
Thank you.
Fährenklangewalzer, opus 235 de Joseph Strauss par l'Orchestre Philharmonique de Vienne, sous la direction de Clemens Krauss. Et puis tiens, avant de se quitter, je remercie les nombreux auditeurs qui m'ont écrit ce matin, comme chaque semaine. Notamment, je précise à celui qui me demandait quelle était cette chanteuse prénommée Agnès, c'était Agnès Capri qui chantait « J'ai préféré devenir chanteuse ». Et puis merci à monsieur Jean-François Non qui me signale que la marche des Africains a été utilisée aussi comme marche des pharmaciens. C'est vrai que ça sonne, ça rime pareil, africain et pharmacien. Ainsi s'achève Étonnez-moi Benoît, une émission de Benoît Duterte préparée par Annie Comier. Aujourd'hui à la technique Maïwenn Le Jehan, Julien Calvas, réalisation Christine Amado. On se retrouve bien sûr samedi prochain. J'aurai la grande joie d'accueillir Roberto Alagna. D'ici là, bon week-end à tous sur France Musique où vous avez rendez-vous avec Sébastien Linares.
À réécouter sur francemusique.fr.